Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Prendre la mer pour aller au bout de soi-même parce qu'il faut penser aux limites, selon les mots de Louis Althusser, qu'aime à citer mon invité de ce matin. Un invité un peu inédit dans notre programmation, skipper, philosophe, esprit libre, humaniste, Michel Sparagano, signataire d'une tribune remarquée dans le journal L'Humanité au lendemain des attentats de Charlie, part en mer 6 mois par an avec notamment des jeunes dits en difficulté, dans le cadre d'une association appelée Grandeur Nature. Coup de zoom sur cette association, rencontres et autres digressions. Michel Sparagano, skipper et philosophe. On a mis un coup de zoom sur vous, mais vous voyez, ça c'est les artifices du métier. Donc vous êtes professeur de philosophie et skipper, entre autres, pour l'association Grandeur Nature. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes venu accompagné de Jade Varin. Vous êtes une ancienne jeune de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et vous avez participé à un séjour organisé donc en mer par cette association Grandeur Nature qu'on va découvrir ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Commençons donc par l'association et puis après on parlera un petit peu de l'éducateur que vous êtes, Michel Sparagano, et puis du philosophe. Cette association, je l'ai citée, donc Grandeur Nature, voilà, vous partez donc en mer, elle existe depuis 1995, il y a du monde en fait hein, dans cette asso, j'ai cru comprendre, qui se mobilise, qui se bouge pour offrir ça à ces jeunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être pour commencer le principe de ces séjours ?
Le principe des séjours de rupture, comme le nom l'indique, c'est que on a affaire à des jeunes qui ont besoin d'une rupture. Rupture avec leur environnement, rupture avec leur famille, qui parfois sont pathogènes. Rupture avec leur fréquentation, rupture avec leurs habitudes alimentaires, comportementales. Et donc, on les emmène en mer 10 mois. On part en général en septembre, on revient en juillet. Et on fait la boucle atlantique.
Comment ça a commencé en fait ? Qui a eu l'idée de ça ?
L'idée...
J'ai cru comprendre qu'il y avait quelqu'un qui a mis toutes ses économies dans un bateau, c'est ça ? Et est-ce que c'était l'intention au départ ?
Non, en fait, le bateau a été offert à celui qui est le porteur de projet, qui s'appelle Christophe Danière, et qui a initié tout ça. Et au début de l'aventure, quelqu'un lui a donné le bateau sur lequel on continue de travailler.
Et décrivez-nous le bateau peut-être.
Alors le bateau c'est un catamaran en bois époxy qui fait 15 mètres, qui est très simple, très robuste, léger, maniable, pas très confortable mais c'est le but.
On tient à 12, c'est ça ?
On tient à 12,
honnêtement,
au maximum.
En regardant, je me demandais comment vous faisiez. Hein,
c'est... Alors il est particulièrement bien conçu, il a été dessiné et construit pour ce projet par un architecte sétois qui s'appelle Denis Kergomar. Et donc, il n'y a pas d'espace de perdu. Jade pourra témoigner tout à l'heure qu'il y a de la place, quoi. Bien sûr, c'est assez spartiate. Par exemple, on navigue sans frigo pendant 10 mois, ce qui veut dire que par la force des choses, on devient plus ou moins végétarien assez vite, quoi.
Donc ça, c'est pour la présentation de la manière dont est née l'association, le bateau, et alors ces séjours de 10 mois en mer. Alors évidemment, on donnera la parole à Jade, hein, qu'est-ce que vous faites pendant ces 10 mois ? Quelles sont un peu les grandes thématiques du programme ?
Eh bien, on navigue, donc comme c'est pas la croisière s'amuse, les jeunes sont amenés à entretenir le bateau, à le manœuvrer, à prendre des responsabilités. Au début de chaque expédition, les jeunes sont assignés à une responsabilité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est responsable de la mécanique, l'autre qui est responsable de l'électricité. Toi, tu étais responsable de l'électricité, Jade. D'autres sont responsables du matelotage. Certains sont responsables de la sécurité. Et puis, tous les 2-3 mois, ils changent de responsabilité en transmettant ce qu'ils ont appris à celui qui va prendre la suite. Et le skipper, le capitaine, leur apprend ce qu'il sait dans chaque domaine. Ce qui fait que ils apprennent et ils sont en charge. Ils sont en charge et non plus à charge.
Alors, il y a 4 adultes à bord, si j'ai bien compris.
C'est cela, oui. Il y a un capitaine et 3 éducateurs.
3 éducateurs, et donc s'il reste, si je sais compter, 8 jeunes.
Alors la capacité maximale du bateau est de 12, mais on n'a jamais navigué à 12. 11 parfois, 10 souvent. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a entre 6 et 7 jeunes que l'on emmène, avec cette particularité qui est propre à l'association, que nous, nous mélangeons les jeunes de l'ASEL, l'aide sociale à l'enfance, avec des jeunes que nous, on appelle des jeunes de famille, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas de difficultés particulières, juste une envie d'aventure. Et on les mélange avec les jeunes de l'ASE et on essaie de faire un équipage et que la mayonnaise prenne. Parce que on considère que ce que faisait Michel Jaouen, peut-être que...
Le père Michel Jaouen,
Le père Michel Jaouen.
Enfin, vous pouvez dire Michel, mais c'est pour préciser que c'était aussi un prêtre.
Un ancien prêtre, un jésuite, qui pendant 50 ans a emmené des toxicomanes sur ses bateaux, que j'ai eu la chance de rencontrer, et qui s'appelle Michel comme moi, et qui me disait... Michel, si tu prends un toxico et que tu le mélanges avec des toxicos, il se raconte des histoires de toxicos. Et donc, sur ces bateaux à lui aussi, il mélangeait les jeunes toxicos avec des gens de tous horizons. Et nous, on tente sur ce modèle-là de faire la même chose, c'est-à-dire qu'on embarque des jeunes, effectivement, qui nous sont confiés par les services sociaux, avec des jeunes qui nous sont confiés par des familles. Et on essaye de faire en sorte que la mayonnaise prenne et qu'à la fin, on ait un équipage.
Alors, il y aurait plein d'autres choses à dire. Je dis tout le temps alors, faut que je me flique. Je vais faire signe à Christophe en studio de me fliquer. On va tout de suite peut-être parler un petit peu de vous, Jade Varin. Donc, vous êtes parti avec donc Grandeur Nature et Michel Sparagano, entre autres, donc de septembre 2014 à juillet 2015, donc pendant 10 mois. Vous en avez entendu parler, vous me disiez ça en préparant l'émission, par l'aide sociale à l'enfance. Racontez-nous peut-être quelques souvenirs clés, ceux qu'on a essayé d'un petit peu d'isoler pour dire le making-of entre guillemets de l'émission, sans se prendre pour des stars, mais qui peuvent illustrer ou contribuer à illustrer aussi de la variété des expériences que vous faites. Et la première chose dont vous vouliez nous parler, c'est une rencontre au Cap-Vert, puisque vous n'êtes pas en mer pendant 10 mois, vous vous arrêtez, et quand vous vous arrêtez, vous rencontrez des gens. C'est Racontez-nous cette histoire au Cap-Vert.
On était partis en randonnée, du coup, sur une île. Et São Vicente. Et le Cap-Vert, c'est une île assez pauvre, enfin, c'est africain. Et j'ai fait cette rencontre d'une famille qui vivait pauvrement, mais en toute simplicité, mais qui nous ont ouvert leurs bras, comme si on était des amis de longue date. Et ils nous ont accueillis en nous donnant tout ce qu'ils avaient, en nous prêtant leur lit, en nous donnant le peu de nourriture qu'ils avaient. Enfin, c'était assez touchant. C'est marquant comme histoire. Et...
Qu'est-ce qui vous a marqué là-dedans, particulièrement, vous diriez ?
Leur générosité, en fait. C'est surtout ça, leur bienveillance, leur gentillesse. C'est des choses que, malgré le fait qu'ils, concrètement, ils n'ont pas grand-chose, voire même presque rien, ils sont prêts à vous le donner comme ça, juste parce que vous avez croisé leur route et que vous leur avez parlé pendant 5 minutes. Et ils ont envie de vous faire partager leur mode de vie, même si c'est pas le nôtre. Et enfin, c'est
Michel Sparagano, peut-être juste un commentaire. Ça fait partie du séjour de rupture de se confronter à très différent de soi, et en l'occurrence à...
Ben oui, ce sont des jeunes qui en général ont pas tellement bougé, qui sont issus souvent, pas toujours mais souvent, de cités. Quand ils sortent de leur cité, déjà, ils se sentent un peu perdus. Donc, vous vous rendez compte, nous, on les emmène jusqu'au Brésil. Donc, ça fait loin. Et du coup, ils découvrent qu'il y a une autre façon de vivre. Ils découvrent qu'il y a d'autres façons de vivre, qu'il y a des gens très différents, que le monde n'est peut-être pas aussi gris et triste qu'ils se l'étaient imaginé. Parce qu'effectivement, le sourire d'un Cap-Verdien, ça marque.
Je suis pas allé au Cap-Vert, mais bon, j'ai souvenir de sourire à Madagascar, et c'est vrai que ça m'a marqué aussi. Histoire que vous vouliez nous citer, Jade, c'est les baleines, hein, puisqu'il y a un fil rouge pendant ces traversées, c'est le monde marin, c'est donc la mer et ses cétacés, et vous avez nagé avec des baleines. Racontez-nous ça.
C'est ça.
Vénard.
Alors en fait, c'est.
Et surtout, pourquoi ça vous a marqué après c'est...
Ça m'a marqué déjà parce que...
Alors décrivez peut-être ce qui s'est passé et après vous nous direz pourquoi.
D'accord, c'est une espèce de récif de corail qui entoure toute une zone au large de la République Dominicaine, à peu près à 100 000 des côtes. Et c'est
100 000,
un lieu...
Ça fait 180 km.
Voilà. C'est un lieu de reproduction de baleines à bosse qui viennent se reproduire pendant 3 mois. Et nous, on reste avec elles pendant 2 mois en faisant des allers-retours. Et du coup, on a la possibilité de nager avec elles, de nager avec leurs baleineaux, et de découvrir un peu ce monde marin, les récifs, Et c'est quelque chose de, bah, d'assez surprenant. Enfin, quand on est dans l'eau, à côté d'une baleine de 30 mètres, et qu'on est tout petit et qu'on sent sa puissance quand elle passe à côté de nous en un seul coup de queue ou de dorsale, enfin, c'est quelque chose de vraiment... qui nous prend aux tripes, quoi. C'est quelque chose d'assez surprenant d'être à côté de ce genre de mammifères aussi énormes. Et quand on les entend chanter, quand on les voit sauter, c'est...
C'est pas une légende, on les entend chanter.
Ah ouais,
ah oui,
le
oui.
chant des baleines
ah
à
oui,
bosse,
on les entend
qui
très bien.
Des graves ou des aigus, c'est un truc qui vous remue les intestins.
Ouais.
Donc ça, c'était le deuxième souvenir. Si vous en aviez un troisième, c'est... Comment dire, ça s'est passé en Guyane. Racontez-nous cette...
Alors oui, on était en Guyane et on est parti avec une association qui s'appelle Botoplay. On part en pirogue au Suriname et on fait 7 heures de pirogue pour aller dans des villages assez reculés dans le fin fond de l'Amazonie. Et du coup, l'association Botoplay amène des jeux de société pour faire découvrir aux enfants de ces villages-là et aussi à leurs parents des jeux de société, des animations. Et
Donc vous remontez le fleuve en pirogue,
ouais.
Et vous vous arrêtez de village en village.
C'est ça.
Et là vous jouez avec les enfants, c'est ça?
Voilà, on leur présente des jeux de société, plein de jeux différents, des bulles, plein de jeux. Et du coup on leur apprend à jouer.
Et pourquoi c'est un exemple que vous citez? Ça vous semble, qu'est-ce qui vous a marqué? Même question.
Ce qui m'a marqué, c'est surtout l'approche des parents. Que je pensais que ça allait être que les enfants qui allaient venir jouer. Et au final, tout le village s'est retrouvé autour de nous, à nous entourer et à faire la queue pour venir jouer avec nous et pour venir découvrir ces jeux-là, parce que c'était un peu la seule distraction qu'ils avaient. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien là-bas. C'est quelque chose... Donc c'était nouveau pour eux. Et le fait que des papas de 50 ans, des mamans, viennent se mélanger aux enfants et viennent jouer avec tout le monde, c'est quelque chose de... Bah, d'assez touchant, quoi.
Alors Michel Spargano, derrière ces exemples, on entend évidemment, ou s'il faut un petit peu expliciter, la rencontre avec des cultures différentes, avec plus pauvres que soi d'une certaine manière, ou en tout cas autrement, l'émerveillement devant la nature, en tout cas ça se voit dans le regard de Jade, et puis aussi la responsabilisation, mais dans la présentation que vous faites de votre association, parce que vous avez un site internet, qu'on redonnera ça à la fin de l'émission, vous avez cette phrase: le premier choc est souvent de découvrir qu'avant de pouvoir vivre des aventures comme à la télé, il faut, et là je vais vous laisser continuer, bref, le but n'est pas que de... Alors, je vais quand même préciser, il faut apprendre à laver son linge, faire la vaisselle, cuisiner des repas, etc., etc. Dites-nous un mot du projet pédagogique au-delà
de l'extraordinaire. Le projet éducatif. Le projet éducatif, il consiste à permettre aux jeunes qui nous sont confiés de devenir responsables, de devenir de plus en plus autonomes. En fait, si vous voulez, notre travail à nous, c'est de faire en sorte que nous ne soyons plus utiles à la fin de l'expédition. Donc, effectivement, il faut qu'ils apprennent tout un tas de choses qu'ils ne savaient pas. Faire avancer un bateau, bien sûr, mais laver son linge, faire les courses, parler dans des langues étrangères. Parce que quand on arrive au Cap-Vert, ils parlent portugais. Donc si les jeunes n'apprennent pas 3-4 mots de portugais, ils ne pourront pas faire les courses. Quand on arrive à Cuba, ils parlent espagnol. Quand on arrive aux Grenadines ou en République dominicaine, ils parlent anglais. Donc il y a cette ouverture, il y a cette prise en charge. Et pour revenir sur ce dont parlait Jade à l'instant, remonter le fleuve Maroni en pirogue et puis amener dans des villages reculés, parce qu'il faut savoir que sur le bord du Maroni, ces villages n'ont comme possibilité de communication que les pirogues. Il n'y a pas de route, hein, on est en Amazonie, on est en Guyane française. Hein. Et quand les jeunes que nous amenons là-bas se retrouvent au milieu de 30, 40 mouflets de ces villages-là, il faut que ce sont nos jeunes qui organisent l'après-midi, qui organisent les jeux, qui surveillent les petits. Et c'est très intéressant de voir des jeunes qui, chez nous en France, sont dans la difficulté, devenir en quelque sorte des animateurs culturels en pleine brousse. En s'occupant de ces mômes de 6 ans, en leur disant voilà, tu peux pas mordre ton voisin, tu peux pas déchirer le jeu, fais comme ci, fais comme ça, viens jouer avec moi. Enfin, on a des belles surprises à ce moment-là, quoi.
Vous m'avez fait suivre un document qui s'intitule, enfin rapide, qui s'intitule « Les séjours de rupture et la philosophie du risque ». Ouais. Et donc vous citez cette phrase donc, de Louis Althusser, « Il faut penser aux limites » et puis un peu plus loin, et puis vous explicitez « Il faut les pousser en fait, dans leurs limites pour savoir un petit peu ce qu'ils valent, pour les aider peut-être à découvrir ce qu'ils valent aussi ». Et vous avez cette phrase « Le séjour de rupture organise cette crise ». Qu'est-ce que vous diriez c'est important, enfin... L'idée,
oui,
c'est quoi, c'est
de... la notion de crise en philosophie, c'est une notion qui oblige l'individu à ne plus pouvoir réagir comme il a l'habitude de réagir. C'est ça la définition d'une crise. Les schèmes de comportement sont inopérants. Il faut trouver autre chose. Donc là, on se retrouve dans des situations où effectivement nos jeunes doivent trouver d'autres modes de communication, d'autres modes de se comporter, et il faut qu'ils inventent ça, il faut qu'ils découvrent qu'ils avaient ça en eux, et ça c'est extrêmement important. Et donc la crise, effectivement, quand elle est organisée, hein, pas quand elle est subie, permet ça, elle permet aux jeunes de découvrir qu'il a au fond de lui finalement plus de ressources qu'il n'imaginait.
On va faire une première pause et on retrouve après. Pour ceux qui nous quittent, on va peut-être donner le site de l'association que vous devez connaître par cœur, Michel Sparagano, c'est www.grandeurnature.org. On fait une rapide pause et on vous retrouve.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Michel Sparagano, skipper, philosophe, c'est le thème de l'émission Vivante Église ce matin, avec donc ce même homme en plateau, professeur de philosophie et skipper, entre autres donc pour une association qui s'appelle Grandeur Nature, et avec lui Jade Varin, ancienne jeune de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui donc est partie pour un séjour dit de rupture en septembre 2014. On va, avant de parler un peu plus de... enfin, de parler de votre expérience d'enseignant, Michel Sparagano, et entre autres quelques expériences assez singulières, puisque vous avez enseigné en Seine-Saint-Denis, au Mirail, entre autres dans des lycées, comment vous appelez ça déjà ?
Autogérés.
Vous nous raconterez ça.
Et en prison également.
Et en prison. Quelques mots encore sur Grandeur Nature, donc cette association qui organise ces séjours. Qu'est-ce que vous nous diriez, Jade, sur l'avant et l'après ? On n'a pas parlé de l'avant. Je vais résumer à gros traits ce que vous m'aviez dit, sans être indélicat. Avant, c'était très compliqué. Vous étiez en foyer. Voilà, vous êtes retrouvé en foyer et puis un temps en famille d'accueil, parce que dans votre famille, on va dire que voilà, il y avait des relations difficiles, pathogènes avec vos parents. Vous m'avez dit que votre mère vous avait mis à la rue à 11 ans. Après, vous avez vécu avec votre père et c'était aussi bien difficile. Est-ce qu'il y a une nouvelle Jade Varin ou est-ce que c'est un peu artificiel ? Et si oui, qu'est-ce qui a bougé en vous ?
Alors, je dirais pas qu'il y ait une nouvelle Jade Varin. Je dirais qu'elle a évolué. Après, c'est quelque chose aussi de normal. Hein. À l'âge de 15 ans, on n'est pas la même qu'à 18, 20 ou 40. Il y a une évolution. Après, je dirais que le voyage m'a beaucoup aidée sur la maturité, sur mon ouverture d'esprit, sur ma façon de voir les choses. Le fait de sortir de mon quotidien, de mes problèmes, ça m'a aidée à envisager mon avenir autrement. Et c'est quelque chose qui m'a aidée autant sentimentalement parlant que, si je puis dire, spirituellement parlant. C'est quelque chose qui m'a fait avancer, quoi.
Vous me disiez en préparant l'émission que, au-delà de ça, ou peut-être plus profondément que cela, vous avez appris à mieux vous aimer.
Oui.
Et peut-être pouvez-vous citer ce que vous faisiez avant ce séjour, oui. Et puis qui n'a plus lieu.
Je me scarifiais, j'ai passé...
Pour ceux qui ne savent pas, scarifier, c'est quoi ?
C'est se faire du mal, s'ouvrir les bras ou différentes parties du corps, avec se couper ou se brûler. Il y a différents types de scarifications. Après, il y a des scarifications qui sont religieuses. Par exemple, dans certains pays africains, les scarifications sont des choses esthétiques ou culturelles, c'est ça. Et moi, c'était surtout pour faire ressentir et exprimer ma souffrance et un certain mal-être. Et c'est vrai que j'ai arrêté de me scarifier pendant et après le voyage, parce que j'ai trouvé d'autres façons d'exprimer cette souffrance, ce mal-être.
Et parce que vous aimez un peu plus.
Et parce que je m'aime et que je m'accepte aussi plus, moi, dans mon corps, dans ma peau, dans ma tête.
Est-ce que vous auriez un commentaire, Michel Sparagano ? Parce que vous l'avez vu évoluer, votre ouais. Protégé, j'allais dire.
Oui, et même ces dernières années, puisque le voyage est fini depuis 3 ans, effectivement, elle a bougé, oui. C'est une réussite de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'effectivement, un jeune qui se scarifie avant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vivre. Donc tout ce qu'on a fait avec Jade n'était pas parfait, il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire. Par exemple, on n'a pas réussi à lui donner l'envie de faire quelque chose de précis au retour, mais déjà c'était pas mal qu'elle arrive à s'aimer mieux, à ne plus se scarifier, à avoir une vie plus saine. Puisque Jade avait quelques soucis de toxicomanie légère, on va dire, au cannabis avant le voyage. Donc effectivement, c'est mieux de ce point de vue-là, bien sûr.
Alors, on continue, Michel Sparagano, mais ça ne vous empêche pas d'intervenir, Jade Varin. J'aimerais qu'on parle d'autres expériences d'éducation que vous avez eues. Vous avez donc, entre autres, enseigné au Mirail. Alors, vous allez me dire que ça fait un peu... Je vous regarde à la loupe comme une bête curieuse, mais on ne croise pas tous les jours dans ces sur ce plateau, ça arrive quand même, je précise, des gens qui sont allés passer du temps au Mirail. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps vous avez enseigné ?
J'ai enseigné 2 ans au Mirail.
La philosophie aussi ?
La philosophie, bien sûr. Je parle du lycée du Mirail, hein, et non pas de l'université du Mirail. Bon, en soi,
pourquoi vous avez choisi d'aller enseigner là-bas, peut-être, et puis qu'est-ce que vous diriez des jeunes que vous avez découverts là-bas?
Si vous voulez, il faut savoir, je crois, faire ce dans quoi on n'est pas trop mauvais, et je crois que je suis pas trop mauvais avec les jeunes qui sont borderline. Et il y en a un peu plus au Mirail qu'à Pierre de Fermat, voilà. À Pierre de Fermat, il y a du travail à faire, mais je pense que beaucoup d'autres pourraient le faire aussi bien et même mieux que moi, tandis que dans des lieux comme ça, bon, on est moins nombreux à pouvoir faire ce travail. Mais il y en a, hein, bien sûr. Hein, moi, ça m'a pas tellement changé de mes années de Seine-Saint-Denis. En revanche, effectivement, au Mirail, j'y enseignais au moment des attentats Charlie Hebdo, et ça, effectivement, c'était plus difficile.
On en parlera juste après. Ouais. Qu'est-ce que vous me diriez rapidement sur les... comment dire, vous avez probablement en tête l'idée qu'on se fait de ces jeunes au Mirail. Dites-nous quelques-unes des pépites que vous avez découvertes chez ces jeunes et qui sont loin des clichés.
Ce sont des jeunes très attachants. Très attachants parce que ils savent que c'est par l'école qu'ils s'en sortiront. Donc effectivement, et nous aussi on sait que finalement, si on est mauvais, c'est une catastrophe. Parce qu'il n'y a pas les filets de sécurité qu'il pourrait y avoir dans d'autres familles. Voilà, on est sur la brèche et ça rend le travail intéressant. Et ces mômes-là sont très attachants. Enfin moi j'en garde un excellent souvenir. C'était des mômes avec qui je me suis très bien entendu. Et on a fait un bon travail, quoi. Et ils ont peut-être pas tous les codes, comme dirait Bourdieu, et tout le capital symbolique dont parlait Bourdieu, mais ils résonnent aussi bien qu'un autre. Simplement, ils n'ont pas les codes. Donc parfois ça pose problème, parfois pas plus que ça. Mais on est là aussi pour avoir, on est aussi des éducateurs. Enfin, je veux le dire, depuis 1937. Le ministère de l'instruction publique est devenu le ministère de l'éducation nationale. Et donc, si les mots ont un sens, on est passé de l'instruction à l'éducation. Et donc, n'en déplaise à certains, les enseignants ont aussi une mission d'éducateur.
J'aimerais que vous nous parliez maintenant, vous alliez commencer à le faire, des attentats de Charlie Hebdo. Donc vous étiez enseignant à ce moment-là, et puis vous avez publié une tribune dans le journal L'Humanité, à ce moment-là, qui s'appelle « Les larmes d'Averroès ». Qui date donc du 18 janvier 2015. Racontez-nous ce que vous dites dans cette tribune.
Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début de l'année, du côté du mois d'octobre, je suis allé voir la proviseure de ce lycée en lui disant, voilà, il y a quelques comportements, pas très nombreux, hein, vraiment pas très nombreux, mais quelques comportements d'élèves un peu radicalisés, qui sont un peu inquiétants. On avait des élèves qui essayaient de faire ostensiblement leurs prières sur les pelouses. Très peu, hein, mais quelques-uns. Quelques collègues de biologie qui se plaignaient, certains élèves, pas beaucoup non plus, mais quelques-uns, qui refusaient d'aller en soutien de philo, parce que, disaient-ils, la philosophie c'est haram. Et haram, ça veut dire illicite chez les musulmans. Donc il se trouve que moi j'ai bien bossé l'islam, et j'étais stupéfait d'entendre ça. Donc je suis allé voir le proviseur, je lui ai dit, voilà, on pourrait peut-être organiser une conférence sur les rapports un peu compliqué mais intéressant entre la philosophie et l'islam, et donc on avait pris date pour le 15 janvier. Donc j'attendais une soixantaine d'élèves du lycée du Mirail, mais souvenez-vous que les attentats sont arrivés le 7 janvier, et donc le jour de la conférence débat, 400 élèves sont arrivés dans la salle qui ne pouvait en contenir que 250, enfin ça a été un grand moment. D'échanges, de débats, et c'était vraiment très 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 utile, quoi.
Alors comment vous y êtes pris? Vous m'avez dit, ce que vous racontez dans cette tribune, vous êtes dit au début, bon, je vais partir dans un moment d'intelligence collective, je mets de côté en fait ce que je ressens ou ce que je pense, et vous avez commencé sans doute par cette question, bon, est-ce que ceux de Charlie ne l'auraient pas cherché tout de même? Et
alors, deux choses différentes. La conférence débat, qui était une vraie conférence de philosophie avec un débat derrière, et ensuite le travail qu'on a été obligé de faire classe par classe.
Ah bon, pardon, d'accord.
Classe par classe, parce qu'on avait effectivement des élèves qui ne se sentaient pas Charlie. Bien. Ça pouvait choquer effectivement beaucoup d'enseignants, mais il est impossible de démarrer un débat si on met des lignes rouges qui ne permettent pas aux élèves de s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux, ça ne veut pas dire qu'on va cautionner ce qu'ils disent, ça veut dire qu'il faut les laisser s'exprimer pour qu'ensuite on leur montre effectivement l'inanité de ce qu'ils racontent.
Alors qu'est-ce qu'ils ont répondu à cette question ?
Alors effectivement, beaucoup d'élèves disaient, quelques élèves disaient, mais moi je me sens pas Charlie. Je dis, bah, ok d'accord, tu as le droit de ne pas te sentir Charlie, mais allons plus loin. Et donc moi je préférais effectivement prendre les devants et leur dire, mais... voilà, est-ce qu'ils ne l'auraient pas cherché ? Je parle des dessinateurs. Bien entendu, c'est pas du tout ce que je pense. Et il s'en est trouvé un ou deux pour dire oui, effectivement. Et donc ça a permis de démarrer le débat. Et je leur ai démontré que finalement, d'abord ils ne l'avaient pas cherché, bien entendu, et que on peut ne pas être d'accord avec une caricature. Sans pour autant avoir une réaction violente. Il y a dans le Coran le verset 140 de la 4e sourate hein, qui dit des choses très précises et qui dit comment un musulman doit se comporter quand on tourne, je cite, sa religion en dérision. Et donc vos auditeurs pourront aller vérifier, hein, bien entendu, ne me croyez pas sur parole. Mais ce que dit ce verset, c'est que dans ce cas-là, un musulman se lève et sort de la pièce. Pour ne pas cautionner ceux qui tournent en dérision sa religion. Et je n'ai pas trouvé de meilleur verset que celui-là, parce qu'effectivement, tourner en dérision, pour le coup, on est en plein dans les caricatures. Donc là, vous comprenez bien qu'il n'est pas du tout fait mention de l'ange Kalachnikov qui descendrait du ciel et qui tuerait tout le monde. C'est juste, je me lève en tant que musulman, je sors de la pièce et c'est terminé. Donc voilà, ça, il fallait le dire aux élèves qui... il faut bien l'avouer, ont une assez grosse inculture dans leur propre religion. Hein. C'est un autre débat peut-être qu'on pourrait avoir, mais effectivement, on a dans le système français des élèves qui sont assez incultes.
Vous disiez que c'était juste en tout cas quelques-uns dans la classe.
Oui, quelques-uns.
Par exemple, je sais qu'on a entendu dire, alors justement, il faut se méfier des bruits, mais que il y aurait eu des manifestations de joie au Mirail après les attentats de Charlie.
C'est faux. Alors je peux en témoigner, j'y étais, hein, j'étais dans la cour, j'étais là. Non, il n'y a pas eu de manifestation de joie. Il y avait simplement des jeunes qui voulaient pouvoir dire qu'ils ne se sentaient pas Charlie. Alors après, moi, ce que je leur ai expliqué, c'est que je leur ai dit, mais écoutez, je comprends bien votre point de vue, mais réfléchissons. Si les interdits des uns deviennent les interdits de tout le monde, on ne va plus pouvoir vivre ensemble. Donc il a fallu réexpliquer des choses que l'on croyait acquises et qui ne l'étaient pas, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un contrat social ? Qu'est-ce que c'est qu'un compromis politique ? Comment faire en sorte que des gens avec des croyances différentes, des croyances religieuses différentes ou pas de croyances religieuses puissent vivre ensemble ? Et ils ont assez vite compris, finalement, assez vite, pas forcément assez vite, mais enfin, ils ont compris qu'effectivement, les interdits des uns ne pouvaient pas valoir pour ceux des autres, parce que sinon, c'est impossible de vivre ensemble. Si les interdits se rajoutent, à la fin, c'est invivable.
L'interdit, en l'occurrence, c'est celui...
L'interdit, c'était celui de tourner en dérision le prophète, bien sûr. Ou de... Non, pas le prophète, Dieu. Voilà. Après, il y a tout un travail à faire aussi sur cette religion qu'ils connaissent assez mal. Ils n'ont jamais entendu parler du wahhabisme, ils ne savent pas forcément toujours quelle est la différence et sur quel point se distinguent les chiites des sunnites, etc. quoi. Enfin, il y a un vrai travail à faire.
Quelques mots quand même sur la culture religieuse, ouais. C'est-à-dire que bon, c'est un quartier musulman, enfin en très très grande majorité.
Oui, en majorité, oui.
Mais la majorité des jeunes musulmans que vous avez connus là-bas, en fait, connaissent dans le fond, vous dites, peu leur religion.
Oui, c'est exact, oui, bien sûr. Bien sûr. Comme les jeunes catholiques, comme les jeunes juifs. On a un problème dans l'éducation nationale, c'est que loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 obligeant...
On peut pas faire d'enseignement.
On peut pas faire d'enseignement religieux. Alors il y a une quinzaine d'années, Régis Debray avait envisagé dans une tribune de Libération de réintroduire l'enseignement des religions. Pour ma part, je suis pas hostile. Le problème, c'est qui ferait ça?
Je crois qu'on peut aujourd'hui enseigner le fait religieux à l'école. En tout cas, que c'est en cours.
Mais qui pourrait le faire? Le problème, c'est que les collègues d'histoire seraient les plus à même de le faire. Sauf qu'on peut être un excellent professeur d'histoire, agrégé, tout ce que vous voulez. Et ne pas être finalement tellement compétent là-dedans. Donc, c'est un problème. Donc, voilà, au Mirail, par exemple, il a fallu effectivement donner un vademécum culturel sur la religion musulmane à pas mal d'élèves qui...
Et qui s'y collait dans ces cas-là?
C'était moi.
En dehors de vos heures de cours?
Ouais.
D'accord, et avec donc l'assentiment de,
ah, bien sûr, oui,
du proviseur.
Oui, parce que si on hisse le niveau de réflexion, si vous voulez, on rend la grande majorité des élèves un peu étanches aux thèses radicales. On va pas convaincre des élèves qui seraient déjà radicalisés, il faudrait une autre prise en charge. Mais en tout cas, en hissant le niveau de réflexion, on permet au discours radical d'être moins performant. Et c'est ce qu'on a fait, c'est comme ça que j'avais présenté le projet à la proviseur, qu'il avait accepté, et c'était une bonne chose, je crois.
Dernière chose, avant qu'on fasse une deuxième pause, j'aimerais que vous nous parliez un peu des lycées autogérés. J'ai découvert ça, même si je me doutais que ça devait exister. Aujourd'hui, vous enseignez dans un lycée autogéré à Pamiers.
Non.
Non,
non.
Mais aujourd'hui, sont mauvaises.
Non, aujourd'hui, j'enseigne à Muret.
D'accord.
Mais j'ai enseigné dans un lycée autogéré, okay, sur l'île d'Oléron.
Ah, d'accord.
Il y en a 4 en France. Il y en a un à Paris, il y en a un en Normandie. Le plus ancien est à Saint-Nazaire. Et le plus petit où j'ai enseigné était sur l'île d'Oléron. Ce sont des lycées où il n'y a pas d'administration. Pas de proviseur, pas de proviseur adjoint, pas de CPE, pas de surveillant, que des professeurs et des élèves. Et toutes les tâches administratives doivent être faites à la fois par les professeurs et par les élèves. On y expérimente des méthodes pédagogiques... disons plus expérimental. Il faut dire qu'on a
par
des
exemple
le tutorat, on l'a expérimenté il y a déjà 20 ans là-bas, et même plus vieux que ça. Les méthodes de pédagogie de contrat aussi, on les a expérimentées il y a bien longtemps là-dedans. On a eu des beaux succès, on a eu des beaux échecs. L'intérêt, c'est de pouvoir en parler, quoi.
Grande vertu, vous voyez, à ces lycées autogérés, c'est...
D'abord, ça permet de rescolariser des élèves qui ne pouvaient plus être scolarisés ailleurs. C'est-à-dire qu'on avait des élèves qui étaient effectivement... des élèves comme Jade, qui...
Brillant, mais qu'ils ne savaient pas, c'est ça que vous êtes...
C'est-à-dire capables de faire des études, mais qui, à un moment donné, de leur vie, n'ont pas pu les faire. Et puis, les années passent, et ils se retrouvent à 18, 19 ans, ils ont envie de reprendre des études, et puis, c'est plus possible. Moi, je me souviens d'une jeune qui avait 22 ans, 2 enfants, et qui voulait reprendre ses études en seconde. Quel proviseur va scolariser une jeune mère de famille avec 2 enfants en seconde, où les gamins, ils ont quoi, 15 ans? Bon, nous, on l'a fait. Ça demande une prise en charge particulière, ça demande des méthodes particulières, ça demande un investissement extraordinaire. Enfin, moi, j'ai jamais travaillé autant de ma vie d'enseignant que dans ces lieux-là. Il fallait tenir le standard, fallait nettoyer les salles si elles étaient sales, fallait se réunir beaucoup, et fallait discuter énormément. Et chaque enseignant avait en responsabilité directe, à mon époque, c'était 6 ou 7 élèves, dont on était les tuteurs, quoi. Voilà, et ce sont des lieux expérimentaux où on tente effectivement des méthodes qui ensuite pourraient éventuellement irriguer dans le système classique, toute proportion gardée, bien sûr.
Alors on aborde ça évidemment un peu trop à grands pas, il y aurait certainement davantage de choses à dire, mais peut-être avant qu'on fasse cette deuxième pause, je sais pas, les limites dans ces cas-là de ces lycées autogérés, pourquoi est-ce que vous avez peut-être pas persévéré,
quelles D'abord, les limites étaient un peu personnelles, hein. Moi, ça me coûtait un peu cher familialement, ce lycée était à 430 km de ma famille, donc familialement ça me coûtait très cher, j'étais loin de ma femme, de mes enfants, donc à un moment donné ça a été un peu difficile. Et puis je crois qu'à un moment donné, il faut retourner dans le système classique et essayer d'irriguer, quoi. Parce que sinon on expérimente bien sûr, hein, c'est intéressant et c'est performant et c'est intéressant, mais à un moment donné, il faut bien qu'on en fasse quelque chose pour le plus grand nombre. Sinon, effectivement, ça peut être confortable. Enfin, moi j'ai senti qu'à un moment donné, ça pouvait être confortable. Et j'étais pas là pour ça, quoi.
On fait une deuxième pause, on vous retrouve après. Cette fois, on va parler philo, puisque vous animez un café philo à Toulouse. On parlera entre autres des prisons, si ça vous va. Je ne sais pas si ça a été un des thèmes des cafés philo, du moins je l'espère, pour faire écho aussi à votre expérience dans les prisons. Et puis, pour finir, on parlera un petit peu de la question du mal, puisque c'est un de vos sujets de prédilection.
De Saint prennent la mer sur 6 bateaux pour l'Angleterre là-haut, lutter pour la liberté. C'est outrance, grande France, lorsque de leurs enfants vont.
ancêtre parlait-il breton? Peu vous importait alors la question. Ils avaient entendu l'appel crier Kentor Mervel, vingt franquis sur leur ciré. Cette offense, grande France, que de condamner leur langue au bûcher. Cette violence, grande France, que de condamner leur langue au bûcher.
Michel Sparagano, skipper, philosophe, c'est le thème de l'émission Vivante Église ce matin, dans laquelle on parle aussi donc de cette association Grandeur Nature. Michel Sparagano, pardon, professeur de philosophie et skipper entre autres donc pour cette association qui emmène des jeunes, dont Jade Varin qui est en plateau, pour des séjours de rupture. Jade Varin qui a fait ça, donc, qui a fait ça il y a quelques temps déjà. Et j'aimerais qu'on finisse, on finira peut-être quand même par redire un mot de Grandeur Nature à la fin de l'émission, mais j'aimerais que vous nous parliez un peu de vos cafés philo et qu'on parle d'un ou deux thèmes. Donc vous animez un café philo qui est à la cave Poésie, si je ne me trompe pas, à Toulouse.
C'est ça, oui.
Des cafés philo, j'imagine qu'il y en a quelques-uns à Toulouse. Expliquez-nous peut-être le principe et puis les termes, les sujets que vous y abordez.
Un café philo, c'est un lieu, si vous voulez, où on débat sur le registre de l'auberge espagnole. C'est-à-dire que l'on y mange ce que les gens y amènent. C'est un peu ça, l'auberge espagnole. Donc ça n'est ni une conférence, ni un cours. Pour ça, il y a des endroits très intéressants, le Grep, l'université. Là, c'est un lieu qui, pour reprendre la formule de Diderot, hâtons-nous de rendre la philosophie populaire, c'est un lieu où on essaye de rendre la philosophie populaire, c'est-à-dire de permettre à des gens qui n'en ont pas fait, ou peu fait, ou qui voudraient en faire, de s'y essayer. Et donc c'est sur le mode de la discussion, moi je suis là pour relancer, pour envisager des pistes qui n'avaient pas été envisagées, mais en aucun cas pour délivrer une conclusion particulière. Donc c'est un vrai lieu d'échange où les gens expérimentent qu'ils peuvent faire de la philosophie alors qu'ils ne sont pas des professionnels.
Et ça a du succès ?
Et ça a du succès, ça fait quand même... Depuis 1992, le premier, je crois, avait été initié en 1992 au Café des Phares, place de la Bastille à Paris. Et depuis lors, il y en a un peu partout en France. Hein.
Enfin, je vais parler du vôtre, évidemment.
Alors, moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais ça. J'en ai fait un peu partout dans Toulouse, place du Capitole à une époque, au Saint-Cernin, place Saint-Cernin, enfin, dans pas mal d'endroits. Et puis, le dernier en date, effectivement, c'est à la Cave Poésie. J'en ai monté un aussi dans mon village du côté de Muret, un petit village à côté de Muret, où là, effectivement, il y a peut-être moins d'étudiants qui viennent, il y a plus de gens... du village, et je trouve que c'est finalement plus dans la ligne de ce que devrait être un café philosophique, c'est-à-dire un lieu pour les gens qui auraient un peu de réticence à faire de la philosophie.
Jade Varin, est-ce que vous avez découvert la philosophie en mer avec Michel Sparagano? Est-ce qu'il vous parlait philo de temps en temps?
Ah, tout à fait.
Il faut du courage parfois pour oser philosopher, parce que ça peut être une petite révolution dans son univers mental, tout d'un coup se remettre en cause ou en interrogation, ce qui nous paraît...
Alors, moi j'ai découvert la philo avec Michel, parce qu'il me donnait des cours un peu particuliers tous les matins. Il prenait à peu près une heure et on parlait philosophie. Il m'expliquait un peu la philosophie en elle-même. Et après, on a eu des débats aussi sur le bateau avec tout le groupe, et où on philosophait, on faisait des cafés philo version bateau.
Et est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous avez réfléchi en mer qui vous a un peu frappé Je vois par exemple, il y a des cafés philo cette année sur l'homme a-t-il une bonne nature, la charité est-elle une bonne idée, la mort rend-elle la vie absurde. On se pose parfois la question de la mort, mais on se la pose discrètement. C'est un thème dont vous avez parlé, par exemple, en mer ou...
On n'a pas trop parlé de ces thèmes-là, de la charité un peu, oui. Je m'en souviens d'un cours qu'il m'avait donné sur la charité. Mais après, les cours que tu me donnais sur le bateau, c'était plus de la philosophie politique. Donc il m'expliquait un peu plus les différents statuts politiques, parce que de base, c'est un philosophe politique. Donc voilà, il a fait... un doctorat en philosophie politique.
Il faut du courage pour philosopher, vous diriez, Michel Sparagano?
Non, c'est pas du courage, il faut de la persévérance, mais non, il n'y a pas de courage. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas du courage.
Il faut du courage. Ma question, c'était, est-ce qu'il faut du courage pour oser se poser des questions?
Oui, c'est sûr qu'il y a des questions qui sont déstabilisantes, quoi. Bien entendu. Maintenant, ça rend la vie plus intéressante, je trouve. Et effectivement, les discussions qu'on a eues avec Jade sur le bateau étaient intéressantes, quoi. Tout à coup, on découvre, ou elle découvre, qu'il y a des questions qui se posaient alors qu'elle n'envisageait pas du tout que ces questions se posent. Ce qui est finalement une des définitions possibles de la philosophie. Vous savez, la philosophie, c'est cette démarche qui vous permet, lorsqu'on vous donne le choix entre deux solutions, de choisir la troisième. C'est-à-dire que tous les choix qu'on vous donne dans votre vie, en général, sont des choix qui sont encadrés par des évidences.
Par le milieu culturel dans lequel on grandit.
Oui, et puis des évidences qui sont tellement évidentes qu'on n'en a pas forcément conscience. Et du coup, la philosophie, c'est cette démarche qui vous permet de revenir sur le cadre à l'intérieur duquel on vous dit, à l'intérieur de ce cadre-là, tu peux te poser des questions, mais le cadre, lui, n'est pas remis en question. Et la philosophie, c'est cette démarche qui va permettre de remettre en question le cadre lui-même à l'intérieur duquel on nous proposait de réfléchir.
Alors j'aimerais qu'on finisse par une des questions qui, semble-t-il, vous est chère, qui est la question du mal. Alors vous me direz, évidemment, il y aurait de quoi de faire une émission d'une heure, mais voilà, si vous êtes content de l'émission, peut-être qu'on vous réinvitera dans d'autres circonstances, avec d'autres, pour philosopher sur ce sujet. Moi, je rêve de monter une émission Café Philo une fois par mois, vous voyez, donc peut-être que mon rêve va devenir réalité. Comme ça, si le directeur m'entend, il va m'y aider. Le mal, quand vous lancez un Café Philo sur le mal, quelle est votre intention et
L'intention, c'est de faire réfléchir sur un problème. C'est-à-dire que, bien entendu, ça n'est un problème que pour les consciences religieuses.
C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être religieux pour se poser la question du mal.
Non, mais la question du mal n'est pas le problème du mal. Se poser la question est une chose, considérer que c'est un problème en est une autre. Pour une conscience religieuse monothéiste, Dieu est bon et tout puissant. Et donc, j'invente rien, ça fait très longtemps qu'on en parle de ces choses-là, mais l'existence du mal pose problème, c'est-à-dire comment le mal peut-il exister alors que Dieu, que ce soit le Dieu des Juifs, soit le Dieu des musulmans ou le Dieu des catholiques, hein, comment ce mal est-il possible alors que Dieu est bon et tout puissant? Alors à ça, bien sûr, il y a tout un tas de réponses, hein, qui sont historiquement connues. En général, si vous voulez, les consciences religieuses relativisent le mal. Relativiser le mal, ça veut dire que finalement, je vais vite, hein, mais le mal serait un peu comme une pièce de monnaie, et on n'en verrait qu'une seule face. Et des philosophes comme Leibniz ou des philosophes comme Kant nous apprennent à retourner la pièce et à nous dire, voilà, derrière ce qui nous heurte, derrière ce qui nous choque, il y a peut-être quelque chose qui compense. L'existence de ce mal. Hein. On connaît assez peu la philosophie de Leibniz, on la connaît en général à travers la caricature que Voltaire en faisait dans son Candide, à travers le personnage du docteur Pangloss, mais c'est une caricature. L'idée de philosophes comme Leibniz ou Kant, c'est de considérer que le mal est relatif. Si le mal était absolu, alors là, ça poserait un problème insurmontable à une conscience religieuse monothéiste. Mais donc, toute la question est de savoir si le mal est relatif ou si le mal est absolu.
Pour finir, dans ces cas-là, j'ai une sous-question. C'est que vous dites que c'est une question qui se pose à la plupart des consciences religieuses. J'ai cru comprendre que tel n'était pas votre cas. Que répond ou le philosophe que vous êtes à cette question du mal, étant donné que vous êtes, je ne sais pas comment vous définissez,
athée. D'abord, se souvenir d'une lettre...
C'est un challenge parce qu'il vous reste une grosse minute, mais je peux déborder un peu. Si
d'abord, se souvenir d'une lettre que saint Augustin écrivait à saint Jérôme en 425, où saint Augustin dit « Quand on en vient aux souffrances des enfants, je suis, je l'avoue, dans une peine infinie. » Et en fait, saint Augustin pousse la réflexion aussi loin qu'une conscience religieuse peut la pousser. Il dit « Je ne comprends pas comment il est possible que des enfants souffrent. » Bien entendu, il ne sortira pas de son credo. « Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est tout puissant, dit-il. Nous n'en pouvons douter sans folie. » N'empêche que saint Augustin a l'honnêteté intellectuelle de dire « N'empêche qu'il y a quand même un problème. »
Mais vous ne répondez pas tout à fait à mes questions.
Non, c'est vrai. Parce qu'en une minute, ça va être compliqué.
Ah oui, alors là, vous bottez en touche.
Non, non, je ne botte pas en touche. Je dis simplement que, de mon point de vue, si vous voulez, il y a un mal absolu. J'emprunte à Marcel Conche, un de mes vieux professeurs de la Sorbonne, un texte qu'il a écrit en 1956 sur la souffrance des enfants. Je ne parle pas de la souffrance d'un enfant qui vient de tomber de vélo et qui s'est écorché le genou. Quand on a posé à Marcel Conche la question, mais de quels enfants parlez-vous et de quelle souffrance parliez-vous? Bien entendu, comme il était assez vieux, c'est un monsieur qui doit avoir 96 ans aujourd'hui, il nous parlait du martyre des enfants dans les camps d'extermination. Et donc il disait, mais ce mal-là est un mal absolu, c'est-à-dire on ne peut pas le relativiser, on ne doit pas le relativiser. On ne peut pas faire comme s'il y avait un bon côté qui allait racheter la chose. Alors effectivement, on peut toujours dire les voies de Dieu sont impénétrables, hein, je connais la phrase, mais les voies de Dieu sont impénétrables, ça veut dire je ne connais pas l'explication, je n'arrive pas à comprendre cette explication, mais je parie qu'il y en a une. Et le texte de Marcel Conche, que vous pouvez lire sur le mal absolu, dit mais relativiser ce mal, c'est manquer de respect à l'enfant. Voilà ma position.
Eh ben merci beaucoup.
C'est peut-être un peu rapide.
Merci beaucoup. Mais vous inquiétez pas, probablement qu'on vous réinvitera, enfin on verra. Non pas que ce soit un test, mais c'est les hasards de la vie. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église
merci
pour
nous
présenter entre autres donc cette émission Grandeur Nature. Séjour en mer pour remettre à flot. Voilà, pardon pour cette pirouette. un site internet www.grandeurnature.org pour plus la découvrir, éventuellement la soutenir. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.